L'invité du 8:30 ce matin avec nous, c'est Jean-Pierre Vigier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le député de Haute-Loire, étiqueté Les Républicains, mais surtout président de l'Association nationale des élus de la montagne depuis la dernière assemblée en octobre 2024. C'était à Superdévoluy dans les Hautes-Alpes. Vous aviez déclaré à l'époque « on va faire monter le son ». Sauf que depuis, eh bien, le Conseil national de la montagne a été supprimé puis sauvé de justesse par les députés. Est-ce que finalement les parlementaires n'ont pas failli couper le son ?
Les parlementaires, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de l'Association nationale des élus de montagne et de la NEM, on a vraiment fait monter le son, puisque la suppression, dans un premier temps, de ce Conseil national de la montagne a été actée en commission spéciale sur la loi simplification, et nous l'avons appris en début d'après-midi, et le soir même, nous avons fait un communiqué de presse où on a tapé très fort, pour montrer notre désaccord profond et bien évidemment un retour immédiat du Conseil national de la montagne, notamment en séance publique, à tel point que l'ensemble des partenaires et des élus nous ont soutenus dans notre action et démarche. Et bien évidemment, la ministre de la ruralité liée à la montagne m'a appelé le lendemain matin pour me rassurer. En tout cas, ça a été un très mauvais coup. Certains députés qui ont fait adopter son amendement de suppression. Et nous avons eu raison et on voit toute la force de l'ANEM sur ce sujet, puisque lorsque l'amendement a été introduit en séance publique pour recréer, si je puis dire, le Conseil national de montagne, il a été validé et le député même qui avait déposé l'amendement de suppression avait déposé lui-même un amendement de réintroduction et qui a été validé. Donc c'était un passage difficile, mais cette histoire est derrière nous et le Conseil national de la montagne a été rétabli, qui porte quand même avec la NEM et qui est parfaitement complémentaire dans son action la voix très très forte des territoires de montagne et des montagnards.
Ce député UDI des Vosges pointait une absence manifeste d'utilité spécifique pour ce Conseil national de la montagne, avec aussi un coût de fonctionnement disproportionné par rapport à son impact opérationnel. Comment pouvez-vous justifier de l'utilité de ce Conseil national de la montagne ? Les citoyens peuvent notamment voir cette instance un petit peu comme un organe de plus dans le millefeuille administratif français.
Alors moi, je suis très clair, bien évidemment, qu'il faut réduire certains opérateurs de l'État. Nous avons plus de 1000 opérateurs de l'État qui coûtent 80 milliards d'euros, qui ont doublé en 10 ans. Par contre, le Conseil national de la montagne, c'est une à deux réunions. Quand vous regardez le budget, ça ne coûte strictement rien. Ce qui est très important à travers le Conseil national de la montagne, c'est que c'est un lieu de concertation où nous avons tous les acteurs de la montagne, élus locaux, parlementaires, mais aussi socio-professionnels. C'est aussi une entité qui est présidée par le Premier ministre. Donc c'est la voix du gouvernement sur leur stratégie envers les territoires de montagne, à tel point que le gouvernement et trois ministres ont confié au Conseil national de la montagne une mission d'élaboration d'une feuille de route pour l'adaptation des territoires de montagne au changement climatique. Et il est parfaitement complémentaire à l'action de l'ANEM. Je rappelle, c'est simplement c'est fortement des élus, mais il n'y a pas de gouvernement à l'ANEM. Il est au niveau du Conseil national de la montagne qui permet, à travers ces instances, je le redis, de porter la stratégie et la voix du gouvernement sur les sujets de montagne. Et ces deux réunions par an, où on se retrouve l'ensemble des partenaires pour pouvoir avoir cette feuille de route et surtout être complémentaire avec l'action de l'ANEM.
Autre dossier qui est dans l'actualité, les Jeux Olympiques dans les Alpes françaises, c'est pour 2030. Est-ce pour vous une chance ou un problème pour le développement de la montagne ?
Non, nous on l'a très clairement dit au niveau de l'ANEM, c'est une chance pour les territoires de montagne et l'ANEM soutient fortement ces JO. Premièrement, parce que c'est en termes d'attractivité, en termes d'image, on va faire un zoom sur nos territoires de montagne et sur les Alpes au niveau international. Et puis le deuxième point, et là aussi on a une action au niveau de l'ANEM, c'est de regarder à travers ces JO les aménagements qui peuvent être réalisés, à la fois sur la réhabilitation de structures existantes et à la fois sur l'amélioration des structures routières et ferroviaires, comme ça s'était fait au précédent JO. Pour nous, bien évidemment, au niveau de l'ANEM, on soutient, je dirais, à 300% ces JO sur nos territoires de montagne, bien évidemment.
Edgar Gros-Piron, le président du comité d'organisation commission des Jeux Olympiques et Paralympiques pour 2030 a affirmé que les Jeux devaient être de passage dans les Alpes, un passage qui doit marquer, transformer la région dans laquelle les Jeux sont venus poser leurs valises. Comment convaincre que les Jeux ne vont pas abîmer la montagne telle qu'on la connaît aujourd'hui ?
Regardez l'action des montagnards et de la neige, ce sont les premières personnes qui soutiennent, qui développent et qui protègent leur environnement. On a compris, les montagnards ont compris que pour pouvoir avoir une montagne dynamique et attractive, le premier atout, la première richesse, c'est notre patrimoine naturel et notre patrimoine bâti. Et toutes les actions qui sont menées sont en cohérence et en phase avec la qualité de notre patrimoine qui renforce l'attractivité des territoires montagnes. C'est ce qu'on fait au niveau de l'ANEM et c'est ce qui sera fait au niveau de ces JO. C'est certain, les montagnards eux-mêmes connaissent les atouts de la montagne, ils sont les premiers, un, à les protéger, et deux, à les valoriser.
Pourtant, il y a certains habitants qui peuvent ne pas être d'accord. Je pense notamment de manière assez précise dans le Briançonnais, la requalification du Fort des Têtes en village olympique, puis en logement, fait déjà un petit peu grincer des dents pour certains. Une centaine de personnes étaient rassemblées mercredi à la gare de Briançon pour contester le projet. En cause, les coûts liés à la transformation du lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en village olympique, puis les coûts pour transformer ce village olympique en logement. Et comment convaincre éventuellement les réfractaires, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur territoire, en quoi ça va les avantager après ces Jeux ?
Un, déjà les mettre autour de la table pour ce projet. Deux, trouver des solutions qui permettent de rationaliser ce projet en termes de coûts. Et trois, si on est tous autour de la table d'une manière positive et constructive, qu'on rationalise ce projet en termes de coûts, derrière, on aura une réhabilitation de bâtiments qui va se transformer en logement. Donc tout le monde sera gagnant. Et c'est un lien gagnant-gagnant, gagnant avec les JO, gagnant avec le territoire et gagnant avec la réhabilitation de ces logements. Mais il faut vraiment associer tout le monde et rationaliser le projet.
En tant que président de l'Association nationale des élus de la montagne, vous êtes aussi député. Vous avez donc le pouvoir de proposer des lois. La troisième loi montagne, on en est où ? Qu'est-ce qu'elle pourrait contenir ? Ce serait pour quand ? Et est-ce qu'elle va reprendre des propositions réalisées dans des rapports précédents ? Je pense par exemple aux propositions rendues par l'ancien député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, l'an dernier.
Oui, bien sûr. Alors, pourquoi l'acte 3 montagne et une troisième loi montagne ? On a deux lois, une loi de 85, une loi de 2016, qui ont bien fonctionné et qui fonctionnent toujours. Simplement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les besoins, avec les demandes, notamment de nouvelles de la société, et puis le changement climatique, on a besoin d'adapter ces deux textes de loi pour répondre à la fois aux besoins et aux demandes des montagnards, des gens du territoire, et répondre aux besoins aussi de la société qui voit maintenant la montagne d'une manière différente. Je prends aujourd'hui au niveau de l'enneigement, l'ANEM soutient et soutient fortement toutes les stations qui ont de la neige et qui sont capables de garder l'enneigement. Mais on voit bien que on est sur des basses altitudes, on doit évoluer sur certaines stations pour faire ce qu'on appelle du tourisme toute l'année. Je préfère dire du tourisme toute l'année plutôt que du tourisme quatre saisons, où on valorise notre environnement avec des activités de loisirs qui répondent à un nouveau besoin de la société. Et ben, l'acte 3 montagne, sur les différentes thématiques, que ce soit le tourisme, que ce soit le logement, que ce soit l'agriculture, que ce soit les infrastructures, que ce soit les services aux portes publiques et bien d'autres, en fait, on a 5 commissions sur lesquelles on a associé, bien évidemment, les élus. Et on travaille sur le fond de tous ces sujets, de nouveaux sujets de montagne, pour aboutir soit en fin d'année, soit en début d'année sur l'acte 3 montagne. Et bien évidemment, on fait ce travail avec les élus, avec nos partenaires et aussi bien évidemment avec le gouvernement et les différents ministres. Parce que vous le savez comme moi, pour qu'un texte puisse avoir une chance de passer, il faut travailler en amont avec le gouvernement et les différents ministres sur ce dossier-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Ce sera ma dernière question. Parmi les recommandations de Joël Giraud du rapport dont je parlais à l'instant, le fait de veiller à ce que la mise en place de nouvelles activités d'hiver et d'été ne reproduise pas le modèle d'industrialisation de la montagne tel que le ski. Alors, comment développer concrètement le tourisme d'été dans la montagne sans reproduire le modèle de l'industrialisation effectué pour le ski ?
Alors, un, bien évidemment, que le rapport de Joël Giraud aura toute sa place dans l'acte 3 montagne. Ça, c'est évident. Quelqu'un qui est hors pair et qui connaît parfaitement les besoins de la montagne. Le deux, je crois que la société a changé. Je le vois sur des territoires, sur nos territoires, sur mon territoire, notamment dans le Massif central, où on voit les gens viennent se divertir en famille, dans la nature, dans les grands espaces, à condition qu'on ait, un, des activités qui répondent à leurs besoins, à leurs attentes, et surtout, deux, qu'on maintienne le plus longtemps possible les services. Les gens viendront pour les habitants du territoire, mais aussi pour les touristes et les estivants qui viennent chez nous. On le voit qu'il y a une attente de la société, notamment des gens qui habitent dans les grandes villes. Ils viennent dans la nature, chez nous, se divertir en famille. Et c'est pour ça, et c'est pour cela, je vous l'ai dit dès le départ, que l'on doit avoir une action. Toute notre action doit être en cohérence avec la qualité des sites et des paysages, des patrimoines naturels et des patrimoines bâtis. Parce que c'est ce que recherchent les gens en montagne, c'est pouvoir se divertir, se balader, en montagne et en famille. Et l'action, elle est très forte et on a du chemin à faire, mais on voit bien que cette attente, elle est là.
Très bien, merci Jean-Pierre Vigier d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci beaucoup.